Santé.
Santé.
C'est bon pour la santé.
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 C'est bon pour la santé.
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 C'est bon pour la santé.
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 C'est bon pour la santé. Bonjour, comment ça va? Bien? Bien, bien, je le souhaite. Bon appétit si vous êtes en direct et bienvenue si vous préférez la balado-diffusion. Vous écoutez C'est bon pour la santé sur Canal M et c'est Marianne Paquette à l'autre bout du micro. Aujourd'hui à l'émission, les bienfaits de l'activité physique, ben, ils sont nombreux, on en entend parler de plus en plus. Et ce pour tout le monde. Jean Hébert, lui, est enseignant en éducation physique, animateur de l'émission Cardio 55+, à Ma TV. Et lui, il s'est donné comme défi de faire bouger les personnes plus âgées. On lui parle tout à l'heure. Il sera avec nous en studio. Aussi, on joindra Dr. Marie-Ève Légaré. Elle est cornéologue du côté du CHU de Québec. Et avec elle, on parle d'une grande première, une opération extrêmement délicate qui s'appelle la neurotisation. Et ce, d'une cornée dite sensible. On va découvrir en quoi ça consiste tout ça. Et ça a été une grande réussite, cette opération. Donc, ce sera d'autant plus agréable d'en parler avec elle tout à l'heure. Aussi, comment mieux prévenir les maladies chroniques et leurs impacts sur la santé globale? C'est la question que l'on pose au Dr. Kim Lavoie. Elle est professeure au département de psychologie de l'UQAM et titulaire de cette toute nouvelle chaire de recherche de l'UQAM sur la médecine comportementale. Et pédaler pour la réussite scolaire et pour garder la forme, c'est ce qu'a réussi à faire Yannick Dionne avec ses élèves de 5e année à l'école à l'unisson de Mirabel. On la joindra tout à l'heure, mais pour le moment, on se tourne vers Martin Forgue et sa revue de presse de la semaine. Bonjour Martin.
Bonjour Marianne.
On commence avec un scrutin, ou plutôt peut-être un sondage à teneur historique. On tente de joindre 200 000 employés du secteur de la santé pour avoir leur avis.
Oui, bien, c'est un vote que divers syndicats qualifient d'historique en raison de son ampleur. Et c'est une nouvelle qui nous est rapportée par Radio-Canada. Donc, un scrutin postal qui s'est déclenché lundi, qui se poursuit jusqu'au 24 février. Et c'est 200 000 employés qui sont touchés. Ce qu'on cherche à faire, évidemment, on cherche ce scrutin est destiné à choisir l'organisation qui va se charger de représenter ses employés et bien sûr de négocier leurs futures conditions de travail. Donc, tout ça a une portée très syndicale et c'est directement lié à la mise sur pied des centres intégrés de santé et de services sociaux et les centres intégrés universitaires, donc les CIS et les CIUS. Donc, tout ça relié à cette gigantesque réforme du réseau de la santé. Avant, et je cite le président de la CSN, Jacques Létourneau, « Pendant longtemps, on gérait les conventions collectives à l'échelle d'un hôpital ou d'un centre d'accueil. Maintenant, ça va être sur l'ensemble du territoire des CIS et des CIUS. Le nombre d'établissements, bon, on le souligne, est passé de 182 à 34 en 2015 l'établissement de ces superstructures. Et donc, ça venait évidemment, ça lançait la question de la représentation syndicale et maintenant, voilà, donc les différents employés auront à choisir qui les représentera et, je le rappelle, le scrutin a lieu jusqu'au 24 février prochain.
Lorsqu'on parle avec des employés du secteur de la santé, Martin, ils nous parlent de cette crainte liée à la précarité de leur travail. Ça semble étonnant parce qu'on a toujours pensé que lorsqu'on travaillait dans le secteur de la santé, les emplois étaient plus sûrs et ce n'est plus le cas. Donc, on comprend peut-être la légitimité davantage de
la sécurité d'emploi est un enjeu éternel.
Voilà. Maintenant, une bonne nouvelle, et c'est vraiment pile-poil avec cette semaine de la prévention du suicide. Il y a un recul, ça on en entend parler de plus en plus, une diminution depuis 1999.
Oui, bien l'Institut national de santé publique du Québec qui a publié lundi ces dernières données, et donc en 2014, le nombre absolu de décès par suicide était de 845 chez les hommes et 280 chez les femmes. Ce qu'on note, c'est que le suicide a fortement diminué depuis 1999, mais la tendance s'est amenuisée. Par contre, et de là, ce ralentissement cité par l'hebdomadaire Granby Express qui rapporte la nouvelle. On rappelle également que le suicide chez les hommes est trois fois plus élevé que chez les femmes. On parle de 20,2 suicides pour 100 000 habitants. On parlait de 35,8 pour 100 000 en 1999, mais depuis les cinq dernières années, c'est ça. Donc, comme je le disais, la tendance s'est légèrement amenuisée, mais la bonne nouvelle au travers de tout ça, c'est que cette baisse continue Et la baisse la plus spectaculaire se trouve chez les hommes de 15 à 24 ans. Donc, chez les jeunes, ça diminue et on explique les résultats par les réseaux de sentinelles, par la formation d'intervenants, donc une meilleure proximité pour les interventions, des interventions plus directes. Par contre, il y a encore du travail à faire. On dit qu'on doit être présent davantage sur le web et on souligne que c'est en Abitibi, en Gaspésie, en Mauricie, et dans la région de Chaudière-Appalaches, qu'on retrouve encore les taux les plus élevés, deux fois plus élevés qu'en région plus urbaine.
Oui, les régions éloignées. En même temps, on a parlé davantage de santé mentale dans les dernières années, et notamment de la santé mentale des enfants et des adolescents, ce dont on ne parlait pas avant. Donc, j'imagine que ça a un poids dans la balance aussi. Maintenant, une nouvelle campagne de la Société canadienne du cancer contre le tabac.
Oui, la campagne « Je te laisse un concept assez original, Marianne, puisqu'on se base sur le processus de la rupture amoureuse pour modeler un peu cette campagne qui vise à amener les jeunes à rompre avec, avec leur tabagisme. On note quand même que le taux de consommation de tabac atteint un creux historique. Ouais. On parle de 13 % pour l'année 2015, mais les jeunes adultes continuent de fumer. C'est toujours la même histoire. Hein. Ça commence toujours à l'adolescence, une habitude qui finit par avoir la vie dure parce qu'on connaît évidemment le problème de la dépendance à la nicotine. Et donc, cette tournée, cette campagne « Je te laisse » qui part en tournée, en fait, c'est déjà fait. On a commencé le 30 janvier du côté de la cité collégiale et il y aura une tournée dans les différents. On cible les collèges communautaires, les cégeps, les universités à l'échelle du pays. Et donc, on poursuit l'effort pour vaincre cette vilaine habitude.
Oui. On en parlera tout à l'heure, Martin, avec Dr. Kim Lavoie sur ses habitudes de vie qui, on le sait, nuit à notre santé globale, entraîne des maladies chroniques. Et pourtant, on n'arrive pas à décrocher. Encore 15 % des Canadiens fument, malgré toutes les campagnes qu'on a pu faire à travers les années. Elle pourra, je pense, éclaircir un peu tout ce qui est lié à nos comportements et ces comportements
Mais
qui sont destructeurs.
Mais c'est pas pour rien qu'on appelle ça des plaisirs coupables.
Oui, voilà. Et maintenant, 1er février, on est encore dans les relents du temps des fêtes.
Ah,
on le sait, janvier est le mois du gym par excellence. Mais on apprend par Santé Canada qu'il y a des suppléments d'entraînement qui ont été abolis ou non autorisés.
Ils ne sont pas autorisés, donc l'Agence fédérale de santé, c'est Radio-Canada, encore une fois, qui rapporte la nouvelle, indique que les produits Animal PM, Blade et Rich Piana 5% Nutrition 5150. Les noms de produits d'entraînement sont toujours très originaux. Hein. C'est du grand marketing. Donc, peuvent représenter des risques graves pour la santé. Santé Canada a procédé à une saisie de ces suppléments dans les locaux d'une entreprise à Grande Prairie, en Alberta. Ils contiennent de la L-Dopa et de la Yohimbine, donc des médicaments d'ordonnance qui peuvent représenter des risques pour la santé. On sait, on en parle depuis des années de ces suppléments d'entraînement, de la pression que subissent les gens, surtout les jeunes hommes, à les utiliser pour augmenter leur performance pendant leur entraînement. Oui. Et on ne pourra jamais souligner suffisamment les effets néfastes pour la santé.
Martin Ford, toujours un plaisir. Merci beaucoup pour cette revue de presse. On la joint du côté de Mirabel où elle enseigne à l'école à l'unisson. Jannick Dionne, bonjour.
Bonjour.
Alors, les petits sont sur l'heure du dîner. Les petits, bon, cinquième année quand même, là, ça commence à être des grands. Et vous avez du temps ici pour nous parler de cette initiative que vous avez mise en place, le projet La Grande Traversée quotient intellectuel. C'est né de quelle façon, ce projet-là, Jannick Dionne?
Comment c'est né ce projet-là? C'est La Grande Traversée, c'est un projet qui est né de... Attendez, c'est né d'une idée où, quand on a reçu le ministère de la Santé a avisé que les élèves étaient de moins en moins actifs, que cette génération-là ne bougeait plus beaucoup. Alors, moi, je me suis sentie interpellée, étant une maman de deux adolescents. J'ai dit, comment on pourrait augmenter l'activité physique chez nos jeunes. Je suis enseignante en même temps. Et changer le curriculum d'une école, ça coûte des millions. Mmh. Alors, j'ai dit, pourquoi ne pas l'intégrer à même nos classes, à même les heures de classe? Et comme ça, je suis partie, j'ai acheté un petit vélo stationnaire et j'ai installé ça dans ma classe. Puis j'ai dit, ils vont pouvoir pédaler pendant que j'enseigne.
Mmh.
Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est sûr que le vélo faisait du bruit. On s'est adapté, on s'est perfectionné. Puis on est arrivé à un résultat assez incroyable.
Il y a eu aussi un puissant déclencheur chez vous, Jannick Dionne, à savoir que l'espérance de vie chez les jeunes n'allait pas nécessairement en augmentant si on comparait avec les générations précédentes. Et pour vous, ça a été inquiétant?
Bien, ça a été inquiétant. C'est juste que, évidemment, c'était sûr qu'il fallait qu'un jour... Ça l'arrive, hein, parce qu'on peut pas, on peut pas continuer à pousser l'espérance de vie, on peut pas continuer à penser qu'on va vivre jusqu'à 150 ans. Sauf que ça l'a tombé en disant que la génération des enfants nés en l'an 2000, et c'était la première fois que l'espérance de vie diminuait, parce qu'elle a toujours augmenté. Et moi, ma fille est née en l'an 2000, et ça m'a fouetté en me disant, « Ah, ma fille à moi... » va vivre moins longtemps. Ça veut pas dire... C'est pas vrai, c'est statistique. Mais c'est ça qui m'a fouetté. C'est ça qui a fait, OK, faut vraiment... Moi, je peux faire une petite différence. Je voulais la faire à petite échelle. Je savais pas que ce projet-là prendrait autant d'envergure. Mais c'est comme ça.
Oui. Quand vous dites petite échelle, c'est que vous vous êtes inspiré, Jannick, de la Grande Traversée, qui est un relais de cyclistes pan-canadiens... auquel vous avez participé, je pense.
Oui, mais avant que ce soit la Grande Traversée, moi, c'était mon petit projet, on l'avait appelé « Je roule pour ma réussite », ça se passait dans l'école et deux, trois amis autour, c'était tout. Et c'est là qu'il y a un monsieur de Vancouver, Laurent Brisebois, qui a eu dire de ce projet-là, qui a communiqué avec nous, puis a fait « Ça se peut pas, on fait la même chose. Moi, au niveau secondaire, on traverse le Canada à relais avec des élèves du secondaire. On s'inspire un peu de Pierre Lavoie au Québec. Vous êtes chanceux d'avoir ça. Nous, on n'a pas ça dans l'Ouest. Donc, on fait ça. Mais je peux pas croire que... » Et de là que mon projet est devenu la Grande Traversée. .QI. C'est la version comme intellectuelle en classe. Mais...
Oui, parce que, évidemment, on comprend les élèves pédalent sur un vélo de spinning dans votre classe, mais vous arrivez à véhiculer de la matière à travers tout ça.
Tout à fait. Parce qu'en traversant comme ça le Canada, les élèves, ben, ça fait partie de notre programme d'univers social. Ça permet de passer les capitales, les provinces, comment l'Ouest s'est développé, bien, on en parle, ça prend tout un autre sens. Puis en même temps, on peut intégrer à ça toutes les notions mathématiques, le kilométrage, les mètres en kilomètres, on intègre à ça tout plein d'ateliers au niveau des saines habitudes alimentaires, parce que tout ça va avec l'alimentation aussi, les collations, c'est un projet qui est facile à implanter dans une classe, tu as besoin d'un vélo, c'est tout. Idéalement, un vélo magnétique qui ne fait pas de bruit. Les élèves roulent à tour de rôle pendant 15 minutes.
Oui.
Puis, ils changent de place, on ne le voit pas. Je ne me rends même pas compte que mes élèves roulent. Quand j'enseigne, ils sont attentifs, ils m'écoutent. Quand ils sont en travaux autonomes, ben l'élève, il y a des fois, il va apporter son livre, il va continuer. D'autres fois, ils ont le choix, ils écoutent de la musique.
Mm-hmm.
C'est comme une belle récompense, mais pendant ce temps-là, ils pédalent, ils cumulent le kilomètre. Le vendredi, on additionne le cumulatif de tout le monde, ce qui prend 10 minutes, et on avance notre petit vélo sur le Canada. Oh, on arrive à notre ville, on a ciblé des points. Ah, dans cette ville-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que c'est une capitale? Est-ce que c'est... Et c'est comme ça. Et ça paraît pas. Les enfants ont hâte d'arriver à Victoria, puis tout prend un sens.
Jannick Dionne, en ce 1er février, vous êtes où en ce moment?
En ce moment, je suis dans le bureau de la secrétaire à l'école.
Non, c'est-à-dire le petit vélo. C'est-à-dire
où on est rendu?
La traversée virtuelle, oui.
OK. Ah, bien, présentement, on arrive à Windsor, en Ontario. Et là, on apprend que c'est la seule ville qui se trouve à être au sud des États-Unis.
Uh-huh.
C'est la seule ville canadienne qui est au sud des États-Unis. On va voir au niveau de l'économie là-bas, automobile. Mais c'est pas une ville majeure, mais ça fait partie de la traversée.
On a parlé de comment ça fonctionne, la synergie dans votre clan, Jannick Dionne. Il y a des retombées aussi du point de vue de la santé émotive. C'est une façon pour vos élèves de réguler parfois leurs émotions.
Oui, parce que souvent, il y a eu plusieurs projets où ça me fâchait un peu d'entendre ça. Tu sais, je pédale pour éviter une punition ou des choses comme ça. Ça venait me chercher. Je me disais, faut pas associer le sport à ça. Faut juste que le sport, ça soit normal au même titre que de manger ou de dormir. Et oui, on a eu, chez les élèves, souvent qui ont des troubles d'hyperactivité ou d'attention, on s'est rendu compte que des fois, être sur le vélo, le fait d'être en activité physique, ils sont beaucoup plus aptes à répondre.
Ouais.
Aussi, c'est arrivé durant la récréation, un conflit. Ça a été un beau coup de cœur. Il y a eu un conflit avec une élève et un garçon. Puis, spontanément, un autre élève de la classe, il a dit, « Écoute, moi, je roule en entrant. Toi, peut-être que t'aimerais ça. Prends ma place, ça va te faire du bien.
Oui.
Puis moi, je vais prendre la tienne à 2 heures.
Oui. »
Ils connaissent leur horaire. Fait que... Puis la petite a dit, « Ah oui, c'est une bonne idée. »
Ça me ferait du bien à ce moment-là de rouler un peu. Oui.
Tout à fait. Et s'il y a un élève qui est absent, spontanément, mes élèves ont fait un système de pige. OK, bon, ben je pige un nom. OK, toi, t'as pas roulé. Donc, aujourd'hui, tu vas avoir le droit de rouler 2 fois. Puis, ils sont super contents. C'est un privilège. C'est rendu que aller sur les vélos sont chanceux.
Oui. Comment les parents, en début d'année, accueillent ce projet, Jannick?
Les parents ont hâte. Les parents ont hâte qu'ils viennent dans la classe de 5e année, puis ils sont contents quand ils arrivent au 3e cycle de savoir qu'ils vont rouler. Les parents trouvent ça brillant d'intégrer l'activité. Il y a une fois un parent qui m'a dit « Ah, moi, ma fille, elle aime pas ça faire du bicycle. » Fait qu'elle dit « Est-ce que vous allez vraiment l'obliger? » J'ai tout simplement répondu aux parents « Écoutez, on va voir comment ça se passe. Et si ça se passe pas bien, on se repart.
Mm-hmm. »
Ça finit là. L'enfant il a toujours fait du vélo, puis il est content, puis il attend leur tour. Puis des fois, quand on voit un vélo qui est vide, ça va arriver de dire « Hey, comment ça qu'il n'y a personne? » Puis c'est pas moi, là. Moi, je ne gère rien là-dedans. Ils s'autogèrent. Une fois que le projet est installé, il n'y a plus rien à faire. Ça se fait tout seul. Alors, les enfants vont dire, « Ah, comment ça qu'il n'y a personne? » Fait que soit que discrètement, l'enfant va aller, « Hey, t'as oublié ton tour. » Mais ça arrive pas vraiment, mais bon, ça pourrait arriver. Mais non, l'enfant va y aller. Sinon, ben c'est parce qu'il y a un enfant qui était absent puis on a oublié de le remplacer. Ils vont tirer un nom, vont faire, « OK, vas-y. » Tu peux y aller 2 fois aujourd'hui.
En tout cas, tout ça, Jannick Dionne, ça nous donne envie d'aller vous rendre visite à Mirabel, à l'école, à l'Unisson, pour rouler un peu avec vos élèves. C'est un très, très beau projet, oui, de santé globale, mais en même temps, on se rend compte de culture, de réussite académique, d'organisation. Et c'est un beau cadeau que vous faites à vos élèves parce que ça les rend peut-être plus mûrs et plus aptes aussi à leur entrée au secondaire, là, qui s'en vient quand même dans à peu près 1 an et demi. Tout ça, ça rend ce projet très complet. Jannick Dionne, vous êtes enseignante de 5e année à l'école à l'Unisson de Mirabel. Merci beaucoup de nous avoir parlé de cette grande traversée quotient intellectuel.
Ça me fait plaisir. Je vous souhaite une belle fin de journée.
Les maladies chroniques sont responsables du plus haut taux de mortalité dans le monde. On parle ici de 14 millions de décès par année sur la planète. Comment on peut arriver à mieux les prévenir, mais aussi à reconnaître les comportements qui nous mènent vers les maladies chroniques? On en parle avec Dr. Kim Lavoie. Bonjour, Dr. Lavoie.
Bonjour.
Vous êtes professeur au département de psychologie de l'UQAM et là aussi pour nous parler de cette nouvelle chaire de recherche de l'UQAM en médecine comportementale. On va y revenir, mais juste avant, bon, c'est énorme encore 14 millions de décès par année sur la planète à cause des maladies chroniques. Quelles sont les grandes maladies chroniques là, que l'on retrouve le plus souvent?
Bien, les deux plus gros, effectivement, c'est les maladies cardiovasculaires et les cancers. En troisième, et c'est très peu connu, c'est les maladies respiratoires chroniques comme qu'est-ce qu'on appelle la maladie pulmonaire obstructive chronique qui inclut l'emphysème et les bronchites chroniques. C'est troisième en cause de mortalité au Canada. Et bien sûr, il y a l'obésité qui est pas toujours considérée comme une maladie chronique comme les autres, mais bien sûr, c'est un facteur de risque important pour plusieurs de ces maladies-là, incluant la maladie cardiovasculaire, le cancer, le diabète, bien sûr. Alors, tout ça pour dire... une chose qui se ressemble, toutes ces maladies-là, c'est qu'est-ce que j'appelle des facteurs de risque de base qui sont des comportements.
Oui, c'est ça. Et les comportements, on les connaît, Dr. Lavoie. C'est souvent notre alimentation, l'activité physique ou plutôt la sédentarité, le tabagisme. On sait ça, mais comment ça se fait que l'on a encore parfois de mauvaises habitudes de vie?
Ben écoute, c'est un excellent point, Marianne. C'est quelque chose que je fais face à tous les jours dans mes séminaires et face à mes étudiants. En fait, c'est parce que pour changer une habitude de vie ou n'importe quoi, en fait, faut remplir trois critères qui sont essentiels. Et ça, c'est vrai pour tout, là, même chez vos enfants, vos ados, votre mari. Mm-hmm. Alors, faut coter ces trois critères-là. La première chose, faut que la personne reconnaisse qu'il y a un problème. Alors, faut qu'il y ait une reconnaissance, un awareness, si vous voulez, qu'il y a quelque chose à changer. Alors, par exemple, l'alcoolique qui ne reconnaît pas son alcoolisme ne va pas aller voir, va pas assister à une réunion AA.
Oui.
Deuxième critère, il faut être motivé à changer. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas nécessairement être motivé à travailler pour changer, mais faut vouloir au moins les bénéfices en lien avec le changement.
Mm-hmm.
Alors, exemple, faut que ça soit important pour vous personnellement. Il faut que vous croyez que votre vie serait meilleure en changeant. Si la personne ne croit pas que la vie serait meilleure en changeant, bien, la motivation ne serait pas très élevée. Hein?
Mm-hmm.
Et troisièmement, il faut avoir la confiance dans notre capacité à changer. Alors, qu'est-ce qu'on observe souvent, par exemple, chez les patients qui fument? Les gens reconnaissent les dangers associés avec le tabac. Ils ont beaucoup de motivation en lien avec pourquoi arrêter de fumer et tout ça. Mais où ils s'accrochent, c'est la confiance parce qu'en moyenne, les gens ont essayé 7 fois puis n'ont jamais réussi. Et sans que vous êtes capable de coter les trois, ma prédiction en tant qu'experte comportementale, c'est qu'on ne va pas changer.
Donc, reconnaître le problème, la motivation, la confiance... Comment on peut, bon, ça et là, mais est-ce qu'il y a des bonnes pratiques pour aller vers le changement quand tout ça est coché, quand ces trois volets-là, on peut y répondre?
Bien, absolument. Et je pense que souvent, les gens recherchent qu'est-ce que j'appelle des traitements ou des potions magiques, mais dans le fond, c'est un petit peu du bon sens. C'est pas de tout ou rien non plus. Il ne faut pas arrêter de consommer les glucides, il ne faut pas arrêter de consommer le sucre. C'est vraiment, c'est plate à dire, mais c'est pas mal, tout en modération. Et peut-être une des gros mythes que peut-être je peux changer aujourd'hui, c'est le lien entre le poids, par exemple, on va prendre ça comme exemple, et la consommation de calories versus l'exercice. Alors, pour le poids, qu'est-ce qui compte pour le poids? C'est les calories.
Mm-hmm.
Alors, le poids, c'est le résultat de nos consommations en termes de calories et les dépenses énergétiques. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent à aller au gym et tout ça comme stratégie pour perdre du poids. Mais c'est tout simplement pas une stratégie efficace pour plusieurs raisons. Entre autres, ça prend trop longtemps de dépenser notre Big Mac c'est une meilleure stratégie, c'est juste d'éviter le Big Mac.
Voilà.
À titre d'exemple, un repas chez McDo, un trio par exemple, ça vaut avec un petit dessert autour de 2000 calories. Pour une femme qui pèse à peu près 130 livres, elle va devoir courir 5 heures sur un tapis roulant à son maximum pour brûler ce repas-là. Alors, c'est beaucoup plus facile de prendre un choix plus optimal. Alors, ça pour dire, pour la santé, l'activité physique, ça nous aide, bien sûr, pour se maintenir en bonne santé, mais comme stratégie pour perdre le poids, c'est pas celui à privilégier. Ça nous aide, par contre, à maintenir le poids. On peut se permettre un peu plus avec ça, mais je trouve que souvent, les gens confondent la perte du poids avec être en meilleure santé.
Oui. Les gens confondent parce que l'information qui circule n'est peut-être pas toujours juste, et ça, c'est un autre cheval de bataille pour arriver à changer les habitudes de vie, mais de façon efficiente.
Ah, tout à fait. Et je pense qu'avec, on était à l'âge de l'Internet, accès à l'information, mais on a autant accès à la mauvaise information qu'à accès à la bonne. Alors, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on voit sur l'Internet. C'est sûr que j'encourage les gens à écouter leur médecin. Il y a certaines sites qui sont plus fiables que d'autres. Si jamais les gens s'intéressent à une bonne site pour voir, ben en termes de d'informations en lien avec la santé, la bouffe et tout ça, nutritiondata.com, ça contient toutes les informations qu'on peut avoir besoin en lien avec l'alimentation et tout. Mais tout ça pour dire, pour se maintenir en bonne santé et pour prévenir toutes ces maladies-là, c'est très simple. Numéro un, faut éviter fumer à tout prix. Je pense que ça reste quand même le comportement de la santé le plus néfaste pour la santé pour plusieurs maladies. Il y a encore 20% des Canadiens qui fument. C'est la cause majeure de maladies pulmonaires obstructives chroniques, les cancers. Si je vous demande, Marianne, c'est quoi le cancer le plus prévalent chez les femmes? Vous me direz quoi?
Cancer du sein.
Non, c'est pas le cancer du sein, justement, c'est le cancer des poumons.
Ah,
pourquoi?
Oui.
À cause du tabac.
Uh-huh, okay? Bien, oui.
Et même la maladie la plus mortelle pour les femmes, c'est non plus le cancer, c'est le trouble cardiaque.
Mm-hmm.
Alors, ça pour dire, on n'est pas protégé comparativement aux hommes. Et tant qu'on se comporte de la même façon que des hommes, et ça devient de plus en plus ça, on commence à mourir de leur maladie. Hein?
Docteur Lavoie, il reste qu'une minute. On a parlé du tabac. J'imagine que vous voulez parler aussi de sédentarité et également d'alimentation. C'est important, ça.
Absolument. Et c'est vraiment de manger équilibré, autant que possible remplir votre assiette avec des fruits et légumes, éviter ajouter le sucre dans votre régime. Un petit truc que j'ai donné à ma classe ce matin, c'est autant que possible éviter des boissons qui contiennent beaucoup de calories. Parce que c'est une source de calories qu'on n'en tire pas compte. Hein?
Tout à fait. Docteur Kim Lavoie, on vous souhaite bonne chance dans votre nouveau rôle à la tête de la nouvelle chaire de recherche en médecine comportementale de l'UQAM. Je rappelle, vous êtes professeur au département de psychologie aussi à cette université. Merci beaucoup de nous avoir aidé à peut-être modifier nos comportements pour aller vers une meilleure santé globale.
Bien, je vous remercie. Bonne journée.
Au revoir. Deuxième partie de cette émission, c'est bon pour la santé, sur Canal M. Marianne Paquette, toujours avec vous. Tout à l'heure, je joindrai Jean Hébert, il est professeur d'éducation physique et aussi derrière l'émission Cardio 55+, à MaTV. Avec lui, on parlera des bienfaits de l'activité physique chez les personnes âgées. Mais avant, je me rends du côté de Québec pour parler avec Dr Marie-Ève Légaré, cornéologue. Bonjour, Dr Légaré.
Bonjour.
Vous travaillez du côté du CHU de Québec et vous êtes là pour nous parler d'une belle première, une grande percée, à savoir la neurotisation d'une cornée insensible. Là, vous comprenez que c'est un sujet qui est quand même assez peut-être complexe pour nous. Et j'aimerais commencer par le début, à savoir, c'est quoi une cornée insensible, Dr Légaré?
Alors, la cornée, tout d'abord, c'est la fenêtre qu'il y a devant la couleur de l'œil. On a comme une petite fenêtre qui est un peu comme un dôme, c'est rond, et c'est extrêmement important qu'on ait une bonne sensibilité. Si on a une poussière, quelque chose dans l'œil ou une graphine dans l'œil, on risque de perdre la vision s'il y a une infection qui se produit. Alors, au niveau de l'évolution, ça a été très important que la cornée soit sensible pour garder une bonne vision.
Mm-hmm.
Alors, dans certaines maladies ou après comme une chirurgie autre, on peut perdre la sensation de la cornée. non seulement on ne sent pas, vous savez, comme quand on va chez le dentiste, on est gelé, on ne sent pas au niveau de la peau. Au niveau de l'œil, on ne sent pas non plus chez les gens qui ont une cornée insensible. Mais au-delà de ça, c'est dangereux de perdre de la vision progressivement avec le temps. La cornée a besoin d'être bien innervée, donc de bien sentir pour se garder en santé, puis guérir toutes les blessures et rester transparente.
Oui.
Sinon, cette fenêtre-là perd la transparence, puis on perd de la vision.
Est-ce que l'on pourrait dire, Dr Légaré, qu'une cornée insensible est une cause à long terme de cécité?
Oui.
Ah oui.
Les gens qui ont une légère perte de sensation, en général, vont quand même garder une très belle vision, mais les gens qui n'ont plus du tout de sensation sur toute la cornée ont souvent des problèmes et on peut même, dans le pire, on pourrait perdre l'œil. L'œil peut même perforer.
Ah oui, parce que notre œil a moins d'autodéfense, finalement, de cette façon-là.
Exactement. Il y a une blessure, les gens ne le sentent pas du tout, puis là, ça se transforme en infection. Puis cette paroi de l'œil, la cornée, c'est quand même très mince, c'est un demi-millimètre d'épaisseur. Mmh. Alors, tranquillement, s'il y a une petite ouverture, comme une petite plaie ouverte, ça creuse, ça peut même perforer.
Oui. Maintenant, vous avez parlé de gens qui, suite à une opération, peuvent développer une cornée insensible. Qui est plus sujet à avoir ce genre de problème-là?
Il y a plusieurs causes de perte de sensibilité. Il y en a qui naissent avec une cornée insensible.
Mm-hmm.
Et c'est d'ailleurs pour les enfants que cette chirurgie-là a été développée par une équipe de Toronto.
Mm-hmm.
Mais des gens peuvent parfois, après une chirurgie au niveau du cerveau, une chirurgie qu'on appelle de décompression, donc aller décomprimer certains nerfs qui donnent des douleurs importantes au niveau là, du visage. Mais justement, ils n'ont plus de douleurs par la suite au niveau du visage, mais ils n'ont plus de sensations non plus. C'est une des complications qui est possible. Ou après parfois, les gens ont une tumeur au niveau du cerveau. Alors, mm-hmm. en enlevant la tumeur, ça peut le nerf qui innerve la cornée et le visage peut aussi être atteint.
Mm-hmm. Vous avez parlé d'une chirurgie développée pour les enfants. C'est la neurotisation. En quoi ça consiste?
Alors, la neurotisation, c'est quelque chose qui est utilisé beaucoup dans d'autres domaines, entre autres pour... les gens qui ont de gros traumatismes au niveau du bras et qui perdent la fonction du bras, c'est-à-dire les nerfs ne sont plus connectés. Vous savez, les nerfs, c'est comme un fil d'électricité. Si on a une belle télévision puis qu'on coupe notre fil d'électricité, on n'aura plus d'électricité dans la télévision, donc ça ne fonctionne plus. Donc, la neurotisation, c'est comme aller prendre un nerf ailleurs puis aller le reconnecter, comme si on prend une nouvelle extension électrique, puis on va le reconnecter entre, disons, votre télévision puis une autre prise de courant.
Donc, c'est ce que vous avez réussi à faire sur une cornée. Donc, je comprends que vous êtes allé chercher un nerf ailleurs.
Exactement. Alors, en général, on va sélectionner des nerfs qui sont de moindre importance. C'est sûr qu'il faut sacrifier, en général, une partie de sensation en quelque part. Dans le cas de notre personne, alors, le nerf qu'on est allé chercher, on va chercher la sensation au niveau de la cheville. C'est un nerf qui s'appelle le nerf sural qui court là, dans le mollet. Ça innerve environ là, la grosseur d'une pomme au niveau de la cheville. Donc, la personne ne perd pas du tout de mobilité de son pied, de sa jambe, mais perd une petite partie de la sensation autour de la cheville. Donc, on prend ce nerf-là qui est prélevé, puis on va aller le reconnecter entre un nerf qui fonctionne bien, donc qui donne de la sensation, mais de l'autre côté du visage, parce que souvent, ces gens-là ont tout le visage au complet, d'un côté, ne sentent plus rien. Donc, on va se connecter sur un nerf qui innerve le front.
Mm-hmm.
Puis, de l'autre côté, on va aller le passer en dessous de la peau, en dessous de la paupière, et on va aller le reconnecter au niveau de l'œil, vraiment autour du blanc et de la couleur, pour redonner de la sensation à la cornée.
Cette neurotisation, c'était une première au Québec, une intervention qui a duré 7 heures du côté du bloc opératoire de l'hôpital du Saint-Sacrement. Pourquoi ça n'avait jamais été fait auparavant, Dr Légaré?
C'est quand même assez extensif. Tout d'abord, cette technique-là est peu pratiquer ailleurs. C'est quand même des bonnes grosses chirurgies. D'un, c'est des cas qui ne sont pas fréquents. Deuxièmement, ça prend toute qu'une équipe. On a eu besoin là, de l'équipe de l'ophtalmologie, l'équipe du bloc général, une plasticienne qui est Dr Ariane Bussière, qui est allée prélever le nerf et qui est allée reconnecter au niveau du front. Il y a eu mon rôle, moi, là-dedans, c'était d'aller reconnecter au niveau de la cornée en tant que telle. Puis on avait deux oculoplasticiens qui sont deux ophtalmologistes spécialisés dans les paupières et la plastie autour de l'œil pour aller identifier le nerf sain sur lequel on va aller se connecter. On avait les équipes d'infirmières. Il y avait même des gens préposés pour transférer le patient parce qu'on commence la chirurgie sur le dos. Le patient est endormi sur une anesthésie générale. On retourne sur le ventre pour aller chercher le nerf au niveau
du
en arrière. On retourne sur le dos. C'est beaucoup de manipulations, beaucoup d'équipement là-dedans. C'est une bonne coordination. Puis aussi, c'est que c'est quand même des chirurgies quand même assez impressionnantes et relativement nouvelles au niveau de l'œil. Au niveau du bras, ça fait longtemps, mais au niveau de l'œil, c'est relativement nouveau. Alors, c'est pour ça que c'est pas pas fréquemment fait. Mm-hmm. Quand on a l'équipe en place, on va pouvoir...
Puis, ça a été une grande réussite. Donc, cette femme, cette jeune femme a eu un succès. Maintenant, elle a retrouvé la sensibilité de sa cornée.
Pas encore.
OK.
C'est très long, les nerfs à repousser. Alors, quand on reconnecte le nerf, les nouveaux petits, ce qu'on appelle les axones, qui transmettent les tout petits fils à l'intérieur du gros fil, doivent se refaire. Et ça pousse à 1 mm par jour.
Oh là là!
Un 15 cm à faire entre la partie de gauche du visage jusqu'à l'œil. Donc, on estime environ au moins 150 jours de récupération avant qu'on puisse commencer à sentir
les progrès.
Suite à
cette chirurgie.
Ça évolue très bien, mais la sensation, on ne s'attend pas à d'avoir un retour de sensation avant 5 à 6 mois. Chez les enfants, le visage est plus petit, c'est en général plus court, fait que vers 3-4 mois, les gens recommencent à sentir, ce qui est drôle, ils recommencent à sentir, alors qu'on touche à l'œil, ils sentent dans le front de l'autre côté.
Vous avez dit tout à l'heure, Dr Légaré, que la cornée insensible, c'était plutôt rare. C'est quoi la prévalence?
J'ai pas de chiffre exact à vous dire, mais ça doit être une vraie insensible complète. Là, ouais. C'est peut-être de 0,2 à 0,3 % des gens. C'est quand même pas fréquent.
C'est pas fréquent, mais tout de même, cette percée, cette intervention qui a été un succès va changer votre pratique, ce genre d'intervention-là. Qu'est-ce que vous prévoyez dans l'avenir comme avancée liée à cette technologie-là?
C'est sûr qu'avec, maintenant qu'on a la possibilité de le faire, c'est sûr que cette chirurgie va être répétée pour d'autres patients qui, avant, c'était seulement un traitement palliatif. Donc, beaucoup de lubrifiants oculaires, beaucoup de protection oculaire, mais dont la vision tranquillement baisse.
Donc, ça pourrait permettre, à moyen long terme de contrer la cécité.
Oui.
Oui. Vous avez réussi quand même, Dr Légaré, à vulgariser ce qu'est la neurotisation d'une cornée insensible. C'était pas une mince tâche. Merci beaucoup de l'avoir fait. Je pense aussi que c'est une belle visibilité pour le CHUT Québec et vous devez en être assez fière.
Oui, on a une très belle équipe, là. On a toutes les spécialités, alors on est bien contente de tout ça.
Et en même temps, on comprend que c'est une grande équipe multidisciplinaire. Il y a aussi une équipe de Toronto avec vous. C'était un travail d'équipe, tout ça, pour une chirurgie qui est vraiment en grande finesse, on le comprend, et assez complexe. Docteur Marie-Ève Légaré, vous êtes cornéologue du côté du CHU de Québec. Merci beaucoup.
Merci.
Jean Hébert, bonjour.
Bonjour, comment allez-vous?
Je vais très bien vous-même.
Très bien, merci.
Vous êtes enseignant en éducation physique et animateur de Cardio 55+ à MaTV. On est là pour parler des bienfaits de l'activité physique chez les personnes plus âgées. Et je le disais en introduction, Jean, l'activité physique, c'est bon pour tout le monde. On le sait, c'est documenté. Il y a de plus en plus de recherches qui le confirment. Mais À un âge plus avancé, ça semble d'autant plus important et il y a des raisons à ça.
Tout à fait. Évidemment, plus on avance dans l'âge aussi, c'est important de rester mobile et actif, active. Parce que vous le savez, je ne sais pas, je ne vous connais pas personnellement, mais moi, en tout cas, je suis rendu dans la fin quarantaine.
Mm-hmm.
Alors, on remarque que notre mobilité est un petit peu différente que dans la trentaine ou dans la vingtaine. Donc, il faut rester actif. Il faut rester constamment actif à toutes les semaines, tous les jours, peu importe. C'est pas, on ne parle pas nécessairement de faire un sport, mais on parle de faire des activités pour nous garder toujours sur le qui-vive un peu.
Et j'ai l'impression, Jean, que le grand défi, c'est pour une personne plus âgée, notamment qui n'a pas été active dans sa vie, qui décide à 55 ans, 60 ans de le devenir, c'est de trouver ce qu'on aime. Est-ce que vous arrivez à guider un petit peu les gens que vous rencontrez vers une activité qui pourrait les plaire parce que c'est la base de la motivation?
C'est le premier critère. En tout cas, pour moi, pour mes clients, les gens, peu importe dans mes cours, je donne des cours en groupe aussi.
Mm-hmm.
Autant chez les enfants aussi, on en parle, mais surtout chez les adultes, je leur dis souvent, il est hyper important de trouver une activité que vous allez retrouver du plaisir. Le plaisir, pour moi, je le mets en premier lieu avant la condition physique. Si je n'ai pas de plaisir, désolé, je ne m'attarderai pas à cette activité-là ou ce sport-là. Je vais vous donner un exemple fort simple. Je pratique le soccer, entre autres, durant l'été.
Mm-hmm.
On court. C'est durant un match de soccer, on court beaucoup. Et ne me demandez pas de faire de la course. J'en ai tellement fait, étant plus jeune, je suis plus capable de faire de la course. Puis pourtant, la mode est à la course,
ouais.
À pied, tout ça. Par contre, moi, juste courir pour courir, j'aime pas ce feeling-là. Par contre, il y en a d'autres qui vont s'y plaire. C'est correct aussi, là.
Mm-hmm.
C'est pour ça que je dis que le plaisir est vraiment, vraiment le critère premier avant de sélectionner. Puis comme je dis aussi, pas nécessairement vous abonner à un sport ou à un club d'activité sportif. C'est vraiment, je donne un exemple encore, il y a le pickleball que j'ai découvert durant les dernières deux derniers étés. Et puis c'est un sport que je connaissais pas du tout. Puis dès que je l'ai approché, my God, je suis comme mon doux. C'est bien le fun parce qu'il y a la partie plaisir aussi, échange avec les autres partenaires aussi.
Mm-hmm.
C'est pas juste le sport, l'activité comme telle, mais l'ambiance qui s'y trouve autour est très plaisante, contrairement à d'autres sports où on va peut-être plus trouver la compétitivité ou peut-être on regarde les autres un peu du coin de l'œil en voulant dire « Ah, lui, il n'est pas bon, fait que je ne veux pas jouer avec. » Alors, le plaisir est super important.
Le plaisir est vos trucs pour que les personnes trouvent une activité physique ou un sport qui leur convienne et qu'ils aiment, c'est d'essayer plein de choses. Donc, d'aller dans un gym, c'est peut-être pas nécessairement la meilleure des voies pour tester plein d'activités.
Non, ça est peut-être une voie, parce que plusieurs centres vont offrir la possibilité, justement, de faire un essai.
Oui,
encore là, comme je disais tantôt que j'offrais des cours, je donne différents cours, je donne un cours de danse aérobique, de step, de yoga, peu importe. Peut-être que la personne va retrouver un peu plus son karma dans une activité plus qu'une autre, puis c'est correct. Mais oui, effectivement, je dirais peut-être plus faire le tour sport de raquette, sport de glisse, marcher, rencontrer des mondes dans des clubs de marche, clubs de mer. C'est là qu'en touchant, c'est un petit peu à l'image un peu de moi-même. Là. Je me lance pas des fleurs, mais je suis un petit peu le type qui essaie toujours des nouvelles activités, qui est toujours à la recherche de nouveaux sports, de nouvelles activités, de nouvelles petites bébelles, des fois aussi peut-être du fait que j'enseigne aussi dans les écoles primaires au niveau de l'éducation physique. C'est évident que j'aime toujours apporter un nouveau jeu ou un nouvel article sportif que les jeunes pourraient pratiquer ou utiliser dans leur temps libre ou en famille.
Jean-Hébert, en tant qu'éducateur physique auprès de personnes âgées, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, de parler des bienfaits pour cette tranche d'âge-là, quels sont les plus grands défis? Comment on doit les approcher et de quoi on doit tenir compte pour bien les encadrer?
Bien, dans un premier temps, c'est sûr que si on est une personne qui est moins active, ce serait préférable d'avoir l'accord, évidemment, toujours de notre médecin.
Oui.
Lui, peut-être, lui parler un petit peu qu'est-ce que vous avez en tête, qu'est-ce que vous avez en vue de faire. Je vous donne un exemple encore là. Si vous n'êtes pas habitué de faire l'équitation, puis du jour au lendemain, vous voulez décider à vous y mettre, à faire l'équitation à temps plein, ben il y a peut-être certaines restrictions peut-être à y avoir côté ossature, musculature. Bon, on commence évidemment toujours plus avec des activités plus douces au départ, moins de contact, moins d'impact. Évidemment, avant de se lancer dans une activité qui est très, comme se lancer au hockey, supposons, demain matin, puis on n'a jamais été vraiment actif, pas très, très à recommander. Mais ce qu'il faut penser, c'est ce qui est important, c'est de travailler notre mobilité, notre flexibilité, notre cardiovasculaire. Parce que plus on avance dans l'âge, ben oui, notre masse musculaire devient plus petite, plus maigre. En fait, on en perd. On perd du tonus aussi. On perd la flexibilité. Notre acuité visuelle aussi change. Notre mobilité aussi change, autant au niveau des mains que des pieds.
Oui.
Notre temps de réaction change. Donc, c'est pour ça qu'il faut y aller. Il faut tout le temps rester actif pour garder le plus possible cette vitesse d'exécution ou cette vitesse de réaction envers peu importe toutes les activités de tous les jours. C'est pas juste en pensant par rapport à notre activité ou à notre sport. Donc, plus on vieillit, le cardio, oui, il est important de travailler, mais moi, je pense surtout de la flexibilité et de la mobilité pour garder une autonomie. Parce qu'on sait que plus les gens vieillissent, évidemment, on est en perte d'autonomie de plus en plus. Donc, si on veut vieillir en santé, ben, comme je disais tout juste à mes parents hier après-midi, je leur disais, votre mobilité, là, puis votre autonomie, le plus longtemps que vous allez pouvoir la garder, ben mieux c'est pour vous. On va pouvoir vous garder en santé plus longtemps.
Oui. Je pense aussi, Jean, à tout ce qui est lié à l'équilibre, qui est un enjeu pour des personnes plus âgées, surtout l'hiver, qui hésitent à sortir par crainte de tomber. On le sait, les chutes peuvent avoir un grand impact aussi après sur la mobilité et l'autonomie d'une personne âgée. Quels seraient vos meilleurs trucs pour renforcer l'équilibre?
Définitivement, vous touchez un bon point, Marianne. C'est un point extrêmement important, je ne l'ai pas nommé tantôt, puis là, je me suis dit, bon, mais si jamais elle me le demande pas, je vais lui en parler. L'équilibre, il y a des exercices d'équilibre qu'on peut faire très simples à la maison. Vous savez, même dans l'émission Cardio 55, quelquefois, on va en parler, puis on le cite souvent, parce qu'effectivement, chez les personnes âgées, évidemment, en perte d'autonomie ou non, plus on vieillit, plus on perd notre équilibre devient moins efficace, mais c'est pas compliqué. Il faut tout simplement mettre notre corps dans une situation où est-ce qu'on crée un peu les situations d'équilibre.
Mm-hmm.
Exemple, on parlait d'équitation tantôt. Oui, si je fais juste me promener à cheval c'est comme ça, assis, tranquille, c'est beau. Si je m'en vais un petit peu au trot, c'est sûr que mon équilibre va être davantage sollicité et au galop, bon, ainsi de suite. Donc, mon truc, c'est définitivement faire certains exercices très simples à faire à la maison en appui sur un pied, sur une jambe. Lever une jambe en avant, un petit peu de côté ou en arrière. Des gestes anodins, simples, en maintien, évidemment, en se maintenant sur un comptoir, sur une chaise, sur un sofa.
Mm-hmm.
Ces petits exercices-là vont vous aider énormément à garder, premièrement, un focus visuel, parce que n'oubliez pas que votre vue vous aide dans votre équilibre. D'où là l'importance de pratiquer différentes activités qui font travailler non seulement notre corps, mais nos yeux.
Oui.
Parce que nos yeux nous aident énormément dans l'équilibre. Donc, travailler les abdominaux, oui, c'est important, mais travailler les muscles dorsaux, donc dans notre dos, est aussi important. Puis c'est pour ça, tantôt, j'avais mentionné un petit peu, la musculation, elle est extrêmement importante. Plus on vieillit, on s'atrophie au niveau musculaire. Puis à ce moment-là, si on ne fait pas d'activité physique et on ne fait pas de musculation non plus, proprement dite, bien, c'est évident que notre équilibre va en prendre un coup parce que c'est un des premiers critères que l'on perd avec la mobilité.
Mm-hmm.
Alors, l'équilibre est définitivement à travailler de tous les sens. Vous savez, vélo, marche, marcher des fois. On marchait sur une rail quand on était jeune. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça.
Oui.
Bon, c'est sûr que ce n'est pas le sport qu'on va demander aux gens. On va dire aux gens, écoutez, pratiquez dans différentes situations, justement, pour pouvoir améliorer votre...
Oui. Alors, on comprend que c'est beaucoup plus simple qu'on peut le penser parfois. Jean Hébert, je veux terminer cette entrevue en parlant de Cardio 55+. C'est votre projet télévisuel qui est diffusé sur MaTV. Vous y présentez des exercices ciblés pour les personnes aînées, actives et j'imagine qui tendent à être plus actives aussi. Des exercices et il y a tout un aspect de santé globale parce que vous y parlez aussi de nutrition. Santé du dos et de maladies chroniques.
Tout à fait, tout à fait. Puis vous avez parlé de différents critères, puis j'oublierai pas aussi le critère social.
Ouais.
Parce qu'en faisant l'activité, on rencontre d'autres personnes dont, tu sais, on sait, il y a souvent des personnes qui sont un peu laissées à eux-mêmes. Bon, peut-être qu'ils ont peut-être moins de famille, moins d'amis, moins de contacts, mais quand même, l'aspect social est extrêmement important. Plus on vieillit, évidemment, on a tendance à perdre un petit peu contact avec les gens qui nous entourent, mais au contraire, il faut s'entourer de gens, il faut s'entourer d'amis, de nouvelles personnes aussi, de nouvelles énergies, puis ça nous incite un peu plus à sortir et à bouger et à faire justement nos petites activités du train-train quotidien, oui. Dont aller faire notre petit magasinage du coin, notre petite épicerie, pas tellement loin. Donc, ça nous incite à marcher pour s'y rendre si c'est possible.
Est-ce que vous vous êtes inspiré, Jean Imbert, de vos clients et de vos parents pour la conception de cette émission-là?
100% d'accord. 100%, c'est la façon la plus facile. Vous regardez autour de vous et puis faut pas aller loin, faut pas chercher midi à 14h. Cherchez les activités les plus simples, les moins coûteuses. Et commencer à bouger tranquillement, pas vite, puis rajouter des petits exercices de musculation ici-là. Ça peut commencer en étant assis. À un moment donné, ça peut être peut-être à genoux, ça peut être debout, en appui, pas d'appui. Puis à un moment donné, ben, la marche, comme on parlait tantôt à l'extérieur, oui. Évidemment, lorsque c'est glacé, évidemment, faire très attention, avoir des petites chaussures avec des petits clous.
Aller au centre commercial, marcher, on le voit, ben ça, oui. Cette initiative-là
absolument,
de la marche
absolument.
En centre commercial. Oui.
Puis on a tellement des beaux centres maintenant qui sont tellement grands à s'y perdre maintenant, oui. Donc allez-y, bougez, rencontrez des gens. Déjà là, c'est toujours bon de juste marcher, c'est la base.
Oui.
Alors, commencez par ça.
Merci, Jean Imbert. Vous êtes enseignant en éducation physique et animateur de Cardio 55+, avec Gabriel Chapdelaine, tout ça, ben MaTV, oui. Pour voir la programmation, matv.ca. Et on rappelle tout ça avec le plaisir, bougez, mais ayez du fun. Merci, Jean Imbert.
S'il vous plaît. Merci à vous. Bonjour.
Dernière section de cette émission, c'est bon pour la santé. J'y vais avec mon petit coup de cœur et c'est grâce à un invité que j'ai reçu dans mon autre émission, Portrait de famille, que j'ai pu être en contact avec cette très belle série documentaire qui s'appelle « Les caravaniers de l'impossible ». Et c'est une initiative de Jean-François Martin, qui est papa de 4 enfants, dont l'aîné, qui vit avec une trisomie 21. Jean-François Martin, vous le connaissez peut-être parce qu'il est derrière ce grand projet qui est Trisomie 21, le défi Pérou, qui a été également un documentaire sorti en 2008-2009 à peu près, où il avait fait l'ascension du Machu Picchu avec des adultes vivant avec une trisomie 21 et des étudiants en technique d'éducation spécialisée. Et il a eu envie de reproduire ou de refaire une grande aventure. Et ça se traduit dans cette série documentaire « Les caravaniers de l'impossible », qui est vraiment une histoire, bon, d'entraide, évidemment, de résilience, d'humanité, mais également... On peut y voir des paysages à couper le souffle. Ça se passe dans les Açores, au Portugal. C'est magnifique. Donc, Jean-François Martin, il s'est envolé vers les Açores avec 10 étudiants en technique d'éducation spécialisée du Cégep du Vieux-Montréal, où il est enseignant, avec également 4 personnes à mobilité réduite qui les accompagnaient. Donc, 4 jeunes adultes qui étaient... incapable, ou disons que pour se mouvoir seul, c'était extrêmement difficile. Et les étudiants de technique d'éducation spécialisée ont prêté leurs jambes à ces 4 jeunes adultes en situation de handicap. Et quand je dis prêter leurs jambes, pour 2 d'entre eux, c'est vraiment de les porter sur leurs épaules pour faire l'ascension des Açores. On parle d'un trek qui est quand même assez difficile et ce sont des lieux qui, en d'autres temps, auraient été inaccessibles pour les 4 jeunes en situation de handicap. Donc, c'est au-delà de la randonnée pédestre. C'est une aventure humaine, un don de soi immense. Ça a été pendant 2 semaines aussi une cohabitation de reconnaître les besoins de ces 4 jeunes-là, d'être à leur écoute, de développer une amitié. Et en même temps, on parle de lieux, bon, je parlais bien sûr du trek, là, qui est inaccessible en d'autres temps, mais aussi les chambres, les salles de bain qui étaient, parce que c'est un camp vraiment dénudé là, de tout luxe, qui étaient inaccessible et pas adapté pour les jeunes qui vivaient avec des limitations. Donc, vraiment, je vous invite à le voir. Ce sont deux épisodes que vous pouvez visionner sur amitélé.ca. Ils sont accessibles encore pour plusieurs semaines, produits par Blimp Télé, les Carvaniers de l'impossible. Vous allez passer un merveilleux moment et probablement que ça vous donnera envie de voyager au Portugal. Voilà, c'est ce qui met fin à cette émission de C'est bon pour la santé. Merci à mes invités du jour. Je rappelle Jannick Dionne derrière le projet La Grande Traversée quotient intellectuel, également Kim Lavoie, professeur au département de psychologie de l'UQAM et derrière cette grande chaire de recherche sur les comportements, la médecine comportementale. Marie-Ève Légaré du côté du CHU de Québec et Jean Hébert, avec qui on a parlé des bienfaits de la santé. Sur la santé, là, de tout ce qui est lié à l'activité physique pour les personnes aînées. Cette émission, elle peut se faire grâce à une équipe. Jean-Sébastien Laliberté derrière la console, toujours fidèle au poste. Martin Forgue à la recherche. Christiane Campagna aux médias sociaux. D'ailleurs, on vous invite à réagir sur Twitter, sur Facebook, à nos émissions, à nos invités, nos sujets. On est en rediffusion à 17h. Et puis, ben, visitez notre site, vusezvoix.com. C'est Marianne Paquette au micro. J'ai été enchantée de vous accompagner au cours de la dernière heure. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien.